Dans l'écume des pages, depuis plusieurs numéros, nous couvrons la 9e édition des Assises internationales du roman, en partenariat avec la Villa Gilet. Aujourd'hui, vous pourrez réécouter l'enregistrement d'une rencontre avec l'écrivaine Geneviève Brisac, organisée le 28 mai 2015 dans la médiathèque de Rérieux. Geneviève Brisac, déjà connue sur les ondes de Transistor puisqu'elle nous avait accordé une interview dans Il y a une vie après normale, est une femme aux activités variées. Écrivaine, auteure de contes, de nouvelles, d'une pièce de théâtre, d'essais, de romans et aussi éditrice pour la jeunesse à l'école des loisirs, elle a été scénariste pour le cinéma et chroniqueuse littéraire. Son œuvre est parcourue de thèmes qui ne l'ont jamais quittée. L'enfantin, au sens de Pierre Péjou, le féminisme, la lutte, l'engagement et la colère. Mais ces substantifs ne sauraient que décrire une lecture particulière de ses écrits. C'est pourquoi je vous recommande vivement la lecture de son dernier roman, Dans les yeux des autres, paru en 2014 aux éditions de L'Olivier, et son essai La marche du cavalier, paru en 2002, et consacré à des figures d'écrivaines qu'elle admire et veut nous faire connaître.
Oui, je crois que un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici dans la bibliothèque de Rérieux en compagnie de Geneviève Brisac et d'un public qui, je n'ose pas être très attentif. Alors Geneviève Brisac, vous avez eu un parcours particulièrement rempli et très divers. Vous êtes normalienne, agrégée de lettres. Vous avez enseigné quelque temps en Seine-Saint-Denis avant de vous tourner vers l'édition, d'abord chez Gallimard, puis à l'école des loisirs dont on fête en ce moment les 50 ans et où vous êtes donc directrice de collection pour les enfants et les adolescents. On vous doit aussi de nombreux romans, parmi lesquels Petite, publié en 1987 aux éditions de L'Olivier, mais aussi Week-end de chasse à la mer, qui a été prix féminin en 1996. Vous êtes l'auteur donc, de plusieurs autres romans, de nouvelles, de contes, d'une pièce de théâtre. Et vous avez aussi consacré des essais remarquables à des romancières comme Virginia Woolf, Grace Pelly ou Flannery O'Connor, entre autres. On peut rappeler que vous publiez des critiques littéraires, notamment dans Le Monde des Livres, que vous avez été la co-scénariste d'un film de Christophe Honoré, « Non, ma fille, tu n'iras pas danser », sorti en 2009. Et votre dernier roman, donc, « Dans les yeux des autres », apparu en 2014 aux éditions de L'Olivier. Vous êtes aussi une femme engagée, Geneviève Brisac, depuis 2007. Vous soutenez Bibliothèque sans frontières, une ONG qui vise à faciliter l'accès au savoir dans les pays en développement. Alors, je vais m'arrêter là pour cette énumération et j'aimerais d'abord vous poser une première question. Comment faites-vous pour tout concilier et surtout, qu'est-ce qui vous pousse à vous essayer à tant de domaines a priori si différents ?
En fait, il me lourde toujours, hein, vous avez compris. Donc, j'essaye un truc, ça ne marche pas, donc je suis virée, je passe à autre chose, ça marche de nouveau pas, je n'ai pas comme tout le monde, quoi, finalement. Donc, évidemment, au bout de très longtemps, ça fait un éventail d'activités considérables, enfin accumulées. Non, c'est agréable en même temps. Comme j'ai tendance à ne pas regarder en arrière, mais plutôt en avant. Et donc, je me dis, effectivement, en vous écoutant, ça pèse le sac à dos et est rempli de cailloux. Quoi. Mais qu'est-ce qui me pousse ben, ça, l'insatisfaction, la curiosité. Et puis surtout, en vérité, c'est un petit peu bidon, parce que tout ça, c'est la même chose. Mm-hmm. Si vous voulez, en fait, écrire des articles, lire des livres... C'est la même chose. Enseigner, transmettre sa passion de la lecture en publiant des romans pour adolescents, c'est le même principe. En fait, tout ça, c'est un peu pareil. Donc, c'est un peu pareil. C'est toujours des gens, des livres, des rencontres, des visages, des espoirs déçus, des tentatives ratées, des nouvelles tentatives ratées, des nouvelles tentatives. Vous savez ce que disait Beckett ? Essayer encore, échouer encore, recommencer. C'est comme tout le monde, quoi.
Alors, au cours de notre dialogue, on va quand même revenir sur un peu sur ces différentes activités, sur aussi votre admiration pour certaines femmes écrivains et pour vos engagements.
Enfin, certaines femmes écrivains, c'est pas que... Oui, je... En fait, voilà, je vais raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, j'étais à une espèce de manifestation, rencontre du livre et tout ça. Et il y a une petite fille qui est venue me voir et elle m'a dit... Enfin, elle voulait un livre pour enfants, donc une histoire d'Olga. Enfin, elle voulait. Vous savez, pas vraiment comme souvent quand on cherche un livre, elle n'était pas sûre de vouloir, mais elle envisageait de peut-être vouloir. Et donc sa mère m'a dit, mais vous pouvez lui dire quelque chose pour voir si ça va l'intéresser. Et alors, je lui ai dit, je ne sais pas, est-ce que tu es très révoltée? Parce que moi, je suis très révoltée. Et elle m'a dit, ah oh, moi je suis hyper révoltée. Elle avait 9 ans. Et donc ça, j'ai ressenti une espèce de chaleur, comme ça, de chaleur de la rencontre. Parce qu'en fait, quand on est très révolté, on est toujours assez content de rencontrer quelqu'un d'autre. On est très révolté, surtout qu'on se démasque un peu en disant qu'on est révolté. C'est peut-être un peu ridicule aussi. Et donc sa mère lui dit, mais peut-être tu peux dire à la dame pourquoi tu es révoltée. Et là, la petite fille dit « Je suis révoltée parce que mon papa est mort. » Paf. Et voilà. Et elle se met à pleurer. Et moi, je me mets à pleurer. J'essaie de me tenir, mais tiens. Et puis, donc, moi, je commence à dire « Mais justement, les livres, enfin, ce que je pense. » Je dis « Mais en fait, moi aussi, mon papa est mort. » Et donc, on a un truc... En plus, il n'y a pas si longtemps. Enfin, bref, on a un truc comme ça, un peu de... Et par exemple, je pense que la première révolte, c'est que ça. C'est... être révolté contre la mort. C'est la première révolte, l'injustice et la mort, l'injustice. Et donc, c'est un gros moteur, hein, parce qu'on est sûr de ne pas être déçu. Hein. Et donc, tout ça pour dire que je suis également, par exemple, pour parler de grandes femmes, de femmes, enfin, les femmes écrivent, et puis leur nom, on les a reconnus, etc. Et puis, en fait, si on vous demande là tout de suite de citer des écrivains majeurs de l'histoire de la littérature, et vous aussi, Céline, c'est pas du tout des femmes qui vont venir, parce que on peut pas dire que les femmes écrivent pas, elles écrivent, mais leurs noms sont effacés. Et là, on l'a vu hier, parce que moi, j'ai regardé en arrivant à Lyon hier soir, j'ai regardé les cérémonies, évidemment, de panthéonisation de Germaine Tillon, et c'est vrai que, et de Geneviève Antonioz de Gaulle, et j'étais frappée par le fait que du coup, entendre leur voix, entendre parler d'elles, me faisait un énorme bien parce que c'est quand même, ça n'arrive quand même pas si souvent et d'entendre leur manière de parler, puisqu'il y a eu du coup énormément d'émissions autour de. Entre rien qu'entendre leur voix et Germaine Tillon ou Geneviève Antonioz de Gaulle, ce n'est pas des écrivains, mais pour moi, c'est. Dans leur rayon, dans leur domaine, je ne me compare même pas du tout à elles. D'abord, elles sont au Panthéon, c'est une petite différence. Mais elles ont fait la preuve de leur continuité, de leur courage, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui change quand on entend ces femmes-là parler. Et moi, ce que j'essaye de faire avec les livres pour les adolescents, ce roman-là, c'est quelque chose de minuscule, hein, comme le colibri de Pierre Rabhi, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, en tout cas.
Alors, effectivement, vous mettez en scène, ou alors vous décrivez ces femmes de lutte, ces femmes de caractère, ces femmes d'engagement dans les yeux des autres, donc Anna et Molly, qui sont deux sœurs, et qui finalement, l'une est médecin. Donc Molly, qui s'engage tous les jours contre la mort, contre la maladie, on la voit dans son cabinet avec des patients extrêmement atteints. Et puis Anna, elle, prend ses carnets et puis elle se replonge en fait dans sa vie passée, plus précisément dans les années 70, des années qui étaient en fait des années de lutte aux côtés de Marek, aux côtés de Boris, des hommes que toutes deux ont aimés, et des années de lutte un peu révolutionnaires. Alors, pour introduire cette discussion, Geneviève Brisac, je pourrais vous demander de nous lire un passage de votre roman. Un passage donc, où Anna regarde en arrière Anna l'écrivain.
Dans ce passage particulièrement dynamique, hein, vous allez voir, de plombant à moi. Anna a renoncé à écrire. Elle a coulé comme une brique. Le temps est passé au galop comme il fait quand on rêve, quand on oublie de faire en sorte que tout, et que la matière de sa propre vie, devienne la matière d'une illusion à décrire, d'une désillusion à analyser avant que tombe la nuit où l'on ne peut plus lire. L'existence d'un écrivain qui ne se sent plus le droit d'écrire est une lutte vaine contre la culpabilité, l'empêchement, la honte, les voix rugissantes et mauvaises qui ricanent et menacent. Tourne ta langue dans ta bouche, pour qui tu te prends? On ne veut voir qu'une seule tête. Réfléchis avant de parler, comme tu es sotte. Réfléchis avant d'écrire, réfléchis aux conséquences de ce que tu fais. Peux-tu me dire à quoi ça sert de répandre des ragots de bonne femme, de salir les gens, de raconter ta vie sans intérêt au lieu d'agir, de te rendre utile, d'aider les affamés, les malheureux, les vieux, les pauvres, au lieu d'apprendre la plomberie, la pâtisserie, les mathématiques? Écrire lui était déjà interdit avant. Lui avait toujours été interdit. Elle s'était bardée d'une obligation d'interdiction, alourdie d'un devoir de transgression, paralysée par la nécessité et l'empêchement. Mais elle ne s'en était pas rendue compte. C'est ainsi que souvent s'expliquent les courages, le courage des taupes. Elle voulait croire que l'on peut dire sans dire, que l'on peut écrire sans blesser. Les taupes ne savent pas ce qu'elles font. Anna Jacob, devenue Deborah Fox avec le succès de son premier roman, avait pensé sincèrement pouvoir passer entre les gouttes de la haine, de la jalousie, si légitimes, les unes et les autres. Elle avait cru à la littérature, à son pouvoir de réparation, de fixation, de creusement inéluctable. Nous avons besoin d'écrivains et d'archéologues, comme nous avons besoin de beauté et de pain. Nul n'a jamais vécu sur cette terre sans avoir son propre point de vue, a dit le poète Robert Browning. Et le tien, Déborah, tu n'as pas eu la force de l'imposer, tant pis pour toi, murmurent les voix. Tu as laissé passer le moment où tu aurais pu te faire entendre. Tu dis que tu n'as pas supporté la douleur du procès, que tu n'as pas supporté les regards de mépris, la séparation, le rejet des tiens, mauvaise excuse, pauvre défense qui ne désigne rien d'autre que ton renoncement. Tu as cru pouvoir prendre d'autres chemins que les petits sentiers habituels, mais non, ce n'est pas une affaire de chemin, c'est une affaire de naufrage. Nager plus loin, nager vers le large. Assis sur le canapé, enroulé dans le plaid de mohair, le bout des doigts rouges et les ongles cassés, Anna voit les choses ainsi. Elle nageait. Elle a voulu revenir sur la terre ferme, mais les vagues la rejettent. Les vagues glissantes l'empêchent de grimper sur le rocher. Les arêtes aiguës font saigner ses doigts. Elle ne peut pas grimper. Elle monte et descend avec la houle et boit l'eau qui remplit la bouche et les poumons d'un seul coup. Elle monte et descend, tend les mains vers l'arête de la roche. Funeste inattention aux choses les plus simples. Déborah Fox a coulé. C'était super gay. C'était bien.
Merci pour cette lecture. Alors, on vient de l'entendre, hein, le temps a une importance particulière ici. Et ce dont vous faites le récit, d'abord, c'est quand même le récit, comme vous l'avez écrit, d'un naufrage, d'une noyade, d'une chute. Est-ce que vous vouliez... pourquoi avoir voulu commencer par le récit de cette déchéance, en un sens? Est-ce que c'est une tragédie, votre roman?
Je pense que c'est des moments... C'est des moments qui arrivent à tout le monde, en fait. C'est des moments nécessaires, c'est des moments dont on pense, quand on les traverse, qu'on ne s'en remettra pas, qu'on voilà, on a coulé, on restera au fond. Et or, c'est toujours de ces moments-là que naît quelque chose de nouveau, de différent, d'imprévu, finalement, d'imprévu.
Justement, vous dites dans votre roman, il s'agit de faire de sa vie une désillusion à écrire. Donc, voilà, puiser dans ce désespoir pour faire surgir un acte
oui.
créateur. Mais est-ce que c'est pas un petit peu esthétisant cette position, c'est-à-dire revenir sur sa vie, la voir comme une œuvre d'art?
La voir comme une œuvre d'art, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, une vie, enfin, je vais le dire de manière un peu brute, voilà, on a une vie, on n'en a pas d'autre. Donc autant faire le truc le mieux qu'on peut et qui ait le plus d'allure possible. Alors, est-ce que c'est esthétisant de vouloir faire de sa vie quelque chose qui ait de l'allure? Ça rejoint ce que je disais sur Germaine Tillon. À un moment donné, elle s'est dit, elle me dit très bien, d'ailleurs, elle n'avait presque pas le choix, mais elle s'est débrouillée pour faire de sa vie quelque chose qui ait de l'allure plutôt que le renoncement. Alors. Évidemment, alors l'histoire de la désillusion, c'est un petit peu compliqué, et souvent, et puis peut-être que pour des gens de 15 ou 16 ans, c'est un peu, je sais pas, répugnant, mais c'est. Je pense qu'il n'y a pas. On a toujours l'impression, je connais personne, et je connais des gens de toutes sortes, qui ne pensent pas que c'est. Enfin, à un certain âge, disons, que sa vie a été tressée de désillusions. Vous demandez à Vincent Lindon, hein, qui vient d'avoir le prix de je sais pas quoi, d'interprétation masculine à Cannes, n'empêche que il raconte des bobards à la télévision ou à la radio, mais si vous l'interrogez demain, il va être pétri de d'amertume, de désillusion. Même ça aurait été le plus beau jour de sa vie, ben voilà, maintenant c'est fini, c'était hier, donc dommage, hein, il n'y aura plus de plus beau jour puisque c'était hier. Donc, je crois que, et en plus, on vit dans un monde de très différent aujourd'hui où tout le monde étant connecté passe son temps à regarder la vie des autres en pensant qu'elle est super bien. C'est-à-dire que, et ça, c'est une chose très contemporaine, très particulière. C'est-à-dire qu'on a tout le temps le sentiment qu'on est très peu de choses, qu'on est rien, qu'on est une poussière, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais la vie des autres, elle a vachement de sens. Et la vie des autres qu'on voit. Il y a une très jolie histoire d'une écrivain américaine qui s'appelle Annie Dillard. Et Annie Dillard dit que c'est une femme qui, une américaine, qui vit beaucoup dans la nature. Elle a passé des mois dans une cabane dans la forêt. Elle en a tiré un très beau livre qui s'appelle En vivant, en écrivant, que j'adore. Et alors elle parle beaucoup de sciences naturelles, d'observation et tout ça. Et elle dit que, par exemple, vous prenez un papillon mâle, et vous lui proposez deux choix, soit un grand papillon femelle sur un écran de cinéma, soit un petit papillon femelle normal, vivant, etc. Le papillon, malheureusement, se jette sur l'écran et meurt. Elle se sert très bien de cette métaphore qui est très jolie pour montrer comment on est tous prodigieusement leurrés par les représentations. Donc, il ne s'agit pas d'être esthétisant du tout, il s'agit au contraire d'être dans une certaine réalité que la littérature est là pour rappeler, finalement, et le livre.
Dans cette écriture qui est tournée à la fois vers le passé et vers le présent, vous parlez aussi d'oubli, de mots ou d'objets dont vous constatez, je cite, qu'ils sombrent dans le néant. Je pense que vous avez dit cette phrase notamment à propos du stencil dans le roman. Et vous aviez d'ailleurs déclaré à propos de cette perte qu'elle accompagnait l'écriture, je vous cite aussi, on écrit aussi avec ce qui est en train de disparaître, donc sur les ondes de France Culture. Faudrait-il voir sous vos mots aussi un passé qu'il faudrait préserver, sauvegarder à tout prix, ou en tout cas dans nos mémoires?
Oh bah ça c'est sûr. C'est sûr que la destruction de la mémoire, de celui du passé, des choses du passé, est certainement ce qui nous déshumanise le plus. D'abord, ça nous rend un peu débiles, et puis c'est quand même plus intéressant de se souvenir des objets, des traditions, des histoires, surtout. Les histoires, elles servent à ça. Hein. Les histoires, quand les objets ont disparu, quand les gens ont disparu, elles servent justement à les faire durer, à les éterniser.
C'est intéressant parce que Umberto Eco a publié récemment un ouvrage, un roman qui s'appelle Numéro Zéro, et dans lequel...
Qui est très mauvais quand même.
Oui.
C'est Umberto Eco.
Dans ce roman, l'auteur s'est dit assez inquiet, nous serions entrés dans un monde sans mémoire, justement. Et pour lui, la jeune génération n'aurait plus de conscience historique. Alors vous qui faites retour comme ça sur cette période des années 70, dont vous dites aussi qu'elle est en train de faire retour peut-être par son esprit en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est ça pour... Moi, je pense d'abord que quand on est un vieux schnock, il faut un peu se méfier de ce qu'on dit sur les jeunes générations, parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Je ne sais plus, hier, comme ça, on parlait de... Oui, quelqu'un disait « plus personne ne lit Henri Michaud ». Ah bon? J'en sais rien. Enfin, il faudrait avoir des statistiques. Peut-être qu'on ne parle pas d'Henri Michaud tous les jours au journal de TF1, mais ça, on n'en a jamais parlé. Donc, qui lit Henri Michaud? Comment on peut le savoir? Les gens... Les généralités sur ce que font ou ne font pas les jeunes, je trouve que c'est un peu... Et surtout, on est toujours surpris. C'est-à-dire, à la veille de mai 68, à la une du monde, du journal Le Monde, le gros titre d'un célèbre article de Vincent Pontet, c'était « La France s'ennuie ». En fait, elle ne s'ennuyait plus au bout de 5 minutes. Et le lendemain, quoi. Aujourd'hui, on dit les jeunes n'ont aucune conscience politique, patati patata. Et puis le lendemain, on voit que, je ne sais pas, en Espagne, il y a des jeunes gens de gauche qui font des tonnes de choses tout à fait inattendues, imprévisibles. Et on va voir... On ne sait pas.
Alors, vous venez de parler de mai 68, justement, qui est peut-être plus présent dans nos mémoires, ou alors qui apparaît comme un événement peut-être un peu plus majeur, et pourtant vous ne revenez pas sur mai 68, pas vraiment en tout cas dans votre roman, vous le faites plutôt dans les années 70. Pourquoi cette date? Pourquoi ces années-là?
Alors 70, c'est donc le lendemain de 68. Hein,
oui.
Et pourquoi je reviens pas? pour moi, c'est comme parler de mai 68. Hein. En vérité, d'ailleurs, la manifestation, il y a un chapitre assez important du livre qui est une grande manifestation, qui est une manifestation de solidarité avec des étudiants mexicains qui viennent de se faire assassiner sur la place des Trois Cultures à Mexico. Et donc ça, c'est juste après 68. Hein. Mm-hmm. Et c'est une manifestation qu'énormément d'étudiants de cette époque-là, enfin moi, j'étais encore lycéenne, mais c'est pareil, pas un lycéen ou étudiant, et enfin, j'étais en première. Quoi. Et donc, c'est une manifestation qui était très étrange, parce que comme il y avait eu des morts sur la place des Trois Cultures, et on marchait avec une espèce d'imagination que c'était la même chose, quoi. Donc qu'on était en danger de mort. C'était assez particulier. Et d'ailleurs, personne n'est mort, mais c'était une manifestation qui a été réprimée très, très, très violemment. Parce que le gouvernement en place ne voulait surtout pas qu'il y ait de nouveau des manifestations de rue comme au printemps. Et donc, tout le monde a été arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose, la police a fait quelque chose que n'a pas le droit du tout de faire dans les canons de la façon de procéder de la police. C'est-à-dire que la manifestation a été encerclée de tous les côtés, alors que normalement, tous les policiers qui sont ici savent qu'il faut toujours laisser une sortie pour que les manifestants puissent... Donc là, la manifestation a été encerclée, les CRS ont serré et tout le monde a été embarqué. Et donc il y a eu 3000 arrestations et 3000 personnes, ça fait beaucoup, ont été déversées dans des montées, dans des bus, etc. Qui du coup, et c'est là où la mémoire c'est intéressant parce que quand des milliers de manifestants sont emmenés dans des bus, immédiatement il y a des tas d'images, souvenirs qui reviennent de choses anciennes, de comment ça s'est passé pendant la guerre d'Algérie et puis comment ça s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tous ces effets, les bus incarne brusquement un effet symbolique. Mm-hmm. Hein. Et donc, tout le monde a été déversé à Beaujon et tout le monde a chanté toute la nuit en attendant qu'on vienne nous libérer. Personne n'est mort, personne n'a été torturé, contrairement à ce qu'on était convaincu que ça allait être. Mais en fait, non. Mais quoi qu'il en soit, ça a créé comment est-ce que je peux dire ça? Et si vous rencontrez des gens, à part moi, qui ont vécu ce moment, c'est un moment très, très mémorable. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'était des gens qui étaient, ce jour-là, ils se font tous arrêter pour des étudiants mexicains. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a très, très peu de manifestations de rue pour des étudiants, bon, je sais pas, même ne serait-ce d'ailleurs que pour des immigrés qui essayent de venir en France et qui se noient au large de nos côtes. Il n'y a pas. Là, il y a une forme d'habitude ou de résignation ou d'un sentiment d'impuissance qui s'est énormément développé quand même. Et donc cette scène-là, mm-hmm. pour moi, c'est mai 68 en fait.
D'accord. Vous dites aussi que vous vouliez raconter le minable point de vue des filles sur ces années-là, sur la Révolution. Mais qu'est-ce que c'est que ce point de vue? Est-ce que c'est encore nécessaire de le faire entendre aujourd'hui?
Apparemment.
Mais est-ce qu'il y a, de votre point de vue... par exemple, une écriture typiquement féminine, d'un point de vue... Est-ce que c'est une question littéraire, esthétique, ou alors est-ce que c'est une question tout simplement politique, puisque vous parlez de politique dans ce roman?
Disons que c'est toujours compliqué de faire des généralités. Oui. C'est parce que c'est... Il n'y a pas les femmes, je peux prendre 10 femmes écrivains, aucune n'écrit le moins du monde comme moi, et réciproquement. Donc, évidemment, il n'y a pas une écriture féminine, mais pas plus d'ailleurs qu'il y a une écriture masculine. Donc, et il y a, je connais, je sais pas, 80 écrivains hommes, ils écrivent tous très différemment. Enfin, tout le monde écrit selon sa respiration, sa représentation, son histoire, ses lectures, son souffle, et puis son génie propre. Alors, mais il y a une chose que je m'appuie beaucoup sur Virginia Woolf, il faut bien s'appuyer sur. Voilà. Et Virginia Woolf est pour moi un pur génie et celle qui a le mieux réfléchi, il n'y a finalement pas si longtemps que ça, sur ces questions de respiration. Et elle dit par exemple que dans Une chambre à soi, qui est un livre que je recommande à tous ceux et celles qui ne l'auraient pas encore lu, que ce n'est pas qu'il y ait une écriture féminine. En revanche, il y a une façon de regarder, il y a une façon d'observer, il y a une façon de vivre, de un rapport aux autres, etc., et puis une histoire, tout simplement, et aussi une respiration qui est différente selon les hommes et pas les hommes et les femmes, mais en tout cas, il est certain que si... le gros problème qu'il y a à l'origine, c'est pas moi, quand j'avais 8 ans, je savais très bien que je serais écrivain, mais un garçon de 8 ans, il se dit je serai Victor Hugo, ou je serai Chateaubriand, ou je serai Umberto Eco. Mais, et moi, évidemment, une fille de 8 ans, elle ne se dit pas qu'elle sera Victor Hugo. Ou alors, si elle le dit, elle ne le dit pas trop fort, parce qu'elle est certaine que si elle dit à sa prof de français, ou à ses parents, ou à sa grand-mère, je serai Victor Hugo.
Oui, bien sûr, Victor Hugo,
mais tu ne vas jamais avoir de barbe. Et donc, tu ne pourras pas. Il y a un. On sait très bien. Donc, ou alors, enfin, donc, de toute façon, il y a cette histoire d'identification qui est très très importante dans la transmission en général. Donc, moi, je m'appuie sur Virginia Woolf et sur ce qu'elle a dit là-dessus, c'est-à-dire que les femmes doivent conquérir un territoire de reconnaissance de leur. Je sais pas, je vois bien. Je suis sûre que si vous prenez la liste des écrivains que vous étudiez à l'ENS, la proportion de femmes, elle reste très très faible. Très très faible. Et pourquoi ? Ah bah c'est comme ça. Tant pis. Hein. Et en plus, dès qu'on dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes ? On ne veut pas nous fatiguer avec ça, tellement barbant. En plus, nous, on adore lire les. Alors, l'énorme inégalité, c'est que je connais aucune femme écrivain qui n'adore pas lire les livres de ses copains écrivains. Donc, on les lit toute la journée. Moi, j'ai écrit des centaines d'articles sur tous mes camarades écrivains. Voilà. Mais eux, en fait, bizarrement, ça les embête. C'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est juste que ça ne les amuse pas de lire les livres des femmes. Ça, il fait chier. Donc, enfin, pour la plupart, disons. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont très, très amicaux, mais ça va pas plus loin. Donc, en fait, on n'en a pas tellement besoin de leur amitié, de ce moment-là. Et donc, ça, c'est une énorme différence. C'est alors, qui change un petit peu, quand même, mais qui reste, mais qui change pas tant que ça. Donc, il y a aussi une très belle histoire de Virginia Woolf que je vous raconte en passant. Quand elle est morte, donc en 41, on a demandé à Eliot, on le connaît, qu'elle avait beaucoup aidé, beaucoup protégé, beaucoup financé, qu'elle avait publié dans sa maison d'édition, pour lequel elle avait organisé une collecte pour qu'il puisse ne plus aller à sa banque, mais faire que écrire ses poèmes, etc. Donc, il lui devait beaucoup. Et donc, le Times est venu voir Eliot et lui a dit, bon, monsieur Eliot, vous écririez la une du Times sur Virginia Woolf qui vient de mourir. Et il a dit, ah, non, c'est une amie. Alors, oui, enfin, justement, ce serait vraiment très bien que c'est une amie, que vous écriviez cet article. Je ne vais pas le faire parce que je l'aimais beaucoup. Hein. C'était vraiment une très. Elle n'a pas dit une brave femme, ce point de vue déjà, mais c'est vraiment une bonne personne, comme on dit aujourd'hui. C'était une bonne personne. Mais ce qu'elle écrivait. Non, ce qu'elle écrivait. C'est bien pour elle, hein, mais c'était pas mal. Mais je ne peux pas écrire. Moi, quand Tess Eliot, je n'écris pas sur ces choses un peu ennuyeuses. D'ailleurs, je ne la lisais pas tellement. Et ça, j'ai l'air énervée, mais en fait, c'est juste la vérité.
D'ailleurs, vous mettez en scène deux personnages dans votre roman lors d'une rencontre, en fait, dans des soirées littéraires. Un jeune homme qui s'appelle Alexandre, que vous appelez le mâle du XXIe siècle, et puis un autre, à la fin, qui n'a pas de nom, mais qui déclare ceci, je vous cite parce que c'est à la fois très drôle et un peu glaçant aussi. « Comment voulez-vous qu'on puisse penser en même temps à des crèmes pour la figure, aux lessives à faire et à de nouvelles phrases à inventer ? Elles ne sont pas prêtes pour de véritables œuvres durables, profondes. » qui puisse en tout cas alimenter mon projet littéraire. Ce n'est en aucun cas une question de genre, plutôt une question de personne. Voilà, tu peux illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a aussi dans votre roman une certaine valorisation de l'enfance. Vous décrivez beaucoup et avec beaucoup de justesse en fait, les enfants de cette rue, la rue Vauquelin, qui est en fait un squat que des familles d'immigrés illégaux habitent. Et il y a donc ces enfants à qui Boris donne des noms, qu'il les rebaptise avec des noms de poètes russes. Pourquoi cette insistance sur l'esprit d'enfance, qu'on retrouve aussi dans d'autres essais comme « La marche du cavalier » ?
Voilà, on entend les. J'aime ça. J'aime ça, l'esprit d'enfance, ça me fait marrer. Quoi. Je sais pas quoi dire. Je regarde n'importe où, dans n'importe quelle partie du monde, où que ce soit, dans une ville, la campagne. Les enfants sont l'essence de la plupart. Si on, pour un écrivain, en tout cas, je connais pas d'écrivain que ça n'intéresse pas d'observer des enfants. Parce que tout est là, la concentration, la passion, le jeu, la curiosité. Enfin, c'est pas que je sois rousseauiste, bien qu'il est possible que je le sois un petit peu, mais dans l'ensemble, tout ça s'abîme quand même un peu normal. Enfin, les enfants peuvent être très très emmerdants et parfois débiles, mais même assez souvent. Et on serait assez content de s'en débarrasser très fréquemment, mais il n'empêche que quand même, l'enfance, c'est le... Et puis, du point de vue de la lecture, c'est sûr que ça se joue là.
Il y a un personnage dans votre roman qui s'appelle Mélanie, qui est la mère donc d'Anna et Molly, qui semble, en un sens, avoir gardé cet esprit d'enfance. Elle est espiègle, elle est fantasque, Mélanie. Elle est extraordinaire, en fait, je dois dire. Elle se métamorphose en camarade Zoé pour suivre ses filles au Mexique et faire la révolution. Elle est en même temps très aristocratique. C'est comme ça que vous la décrivez. Elle se moque bien des conventions. Mais d'où vient Mélanie, en fait? Comment l'avez-vous imaginée?
Pas eu de mal. Je la connais. Il a fait longtemps qu'elle frappait à la porte de mes livres. C'est Marguerite Duras qui dit « Tout écrivain a une mère inépuisablement stupéfiante à décrire. » C'était pastoche.
Pourtant, c'est aussi... enfin, Mélanie fait souffrir Anna. C'est aussi ce qu'on appellerait un peu... avec beaucoup de prudence, peut-être une mauvaise mère, au sens où...
Enfin, elle est comme elle est, quoi. De toute façon, en tout cas, pour écrire, elle est bien, quoi. Il y a une scène dans les cahiers de la guerre de Marguerite Duras où elle raconte une dispute entre sa mère et elle. Enfin, je pense que c'est peut-être des personnages de fiction, mais enfin, c'est clairement sa mère et elle. Et à un moment donné, sa mère tombe dans l'escalier. Et elle, Marguerite Duras, elle se tord de rire. Et sa mère aussi se tord de rire. Et elle dit, c'était notre petit humour en commun. Et à part ça, sa mère la traitait de tous les noms, d'une méchanceté absolument affreuse. Mais Mélanie n'est pas très gentille, hein, mais elle est assez drôle, c'est vrai. Et surtout, elle prend la lumière et elle prend tout d'ailleurs, une espèce d'ogresse.
Elle veut tout, c'est ce que vous dites.
Et elle n'a pas de limite. C'est vrai qu'il y a une scène que j'aime. En fait, quand j'ai commencé, j'avais jamais tellement utilisé ce personnage avant, même jamais. Et quand j'ai commencé, quand elle est entrée dans le livre, j'ai commencé à écrire sur elle, je pouvais écrire 3000 pages. J'avais 3000 histoires totalement désopilantes, comme l'histoire du maillot de bain, ou l'histoire de l'atelier d'écriture, ou l'histoire du supermarché où elle va acheter des légumes et où elle les épluche avant de les peser, parce que comme ça, là, c'est moins cher. L'avarice, c'est un thème, c'est très très avare. Le personnage de Mélanie, un personnage très très avare. Et c'est, le principe de l'avarice, c'est un principe incroyablement comique, en fait. Parce que ça oblige toujours, du point de vue littéraire, et dans la réalité d'ailleurs, à des inventions. Par exemple, le fait de se balader dans un supermarché, de prendre un chou-fleur, de l'éplucher, de le poser tout épluché sur la balance, c'est de l'imagination quand même. Pour les poireaux, pareil. Donc, couper les poireaux avant de les peser, c'est vrai que...
Alors, vous la comparez à Oriane, l'aristocratique hein, de Proust, mais la question aussi vaut pour Anna et Molly, qui tiennent en fait leur nom d'un roman de Doris Lessing, Le Carnet d'or, qui elle-même le tenait en fait de Joyce. Pourquoi en fait autant de surdétermination autour de vos personnages, à travers même leur nom? Pourquoi avoir voulu...
Je pense que tout le monde le fait. Je pense que quand Virginia Woolf, pour continuer dans mon fil, appelle Mrs. Dalloway Clarissa Dalloway, Clarissa, c'est une citation. Donc, je crois que c'est le principe même de la littérature, c'est que derrière un apparent réalisme, au cinéma, c'est exactement la même chose. Vous prenez les trois souvenirs d'enfance d'Arnaud Desplechin qui vient de sortir. Son personnage s'appelle Paul Dédalus, et évidemment, c'est une connotation, et tous les noms des personnages. Pour un écrivain ou un cinéaste, mais c'est-à-dire, c'est pareil, nommer, c'est déjà installer plusieurs couches d'épaisseur, finalement, d'épaisseur romanesque, dans lequel on se reconnaît ou pas, mais... dire que tout le monde ne comprend pas nécessairement. Moi, ça m'est complètement égal que les lecteurs ne sachent pas qui sont Anna et Molly dans Le Carnet d'or, chez Joyce, et avant chez, je sais pas, Fielding, ou, etc. Ça m'est égal, mais c'est là. Parce que la littérature se nourrit toujours des livres qui ont été écrits avant. Qu'on le veuille ou non, un écrivain est toujours la résultante, la somme est la résultante des livres qu'il a lus, qui l'ont traversé, qu'ont lu les gens qu'il a lus, etc., etc. C'est comme ça que
vous utilisez d'ailleurs très souvent la métaphore du grand fleuve de la littérature qui continue ainsi.
Oui.
Et justement, pour parler de nom, Marek Meursault, c'était une allusion à Camus ou alors pas du tout?
Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé comme Camus. C'est-à-dire que Camus raconte toujours qu'il a vu une bouteille de Meursault et que c'est comme ça qu'il a appelé son personnage Meursault. Et il est arrivé la même chose pour Marek. Mm-hmm. J'ai vu une bouteille de Meursault, j'en vois pas sans arrêt. Et donc j'en ai vu une et paf, j'ai dit, oh, c'est bien Meursault. Et en plus, dans Meursault, vous entendez bien que c'est un bon nom qui est avec plein de sonorités intéressantes, même si on... Donc, et Marek Meursault, j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas fait spécialement attention à Camus. Et surtout, là, il n'y avait pas d'intentionnalité plus que ça. D'autant que le personnage de Marek, il est plutôt dostoïevskien que camusien, en vérité. C'est pas complètement contradictoire, mais c'est quand même plutôt ça, ses références. Et comme beaucoup d'adolescents des années 70, ils lisent Dostoïevski toute la journée. Enfin, les garçons, d'ailleurs, surtout. Ça me plaisait qu'il s'appelle Marek Meursault, c'est sûr.
Alors Marek Meursault, pour le présenter rapidement, c'est le compagnon d'Anna, mais c'est surtout un révolutionnaire, hein, une grande figure du parti à Paris, qui va partir en Amérique latine, qui va mourir là-bas, emprisonné, pour ses idées.
En fait, c'est pas exactement la révolution, parce que d'abord il y a eu quelque chose qui est très important pour ma génération, c'est-à-dire il y a eu un espoir immense mis dans le président Allende et l'Unité populaire au Chili. Et ça a vraiment... Aujourd'hui, c'est presque oublié, mais pas oublié. Pas plus qu'Henri Michaud non plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement souvent. Or, ce qui s'est passé au Chili dans ces années-là était vraiment un espoir de révolution non violente. Hein, et puis, le président Allende était un personnage magnifique, mythologique, donc un médecin qui a été assassiné au moment du putsch du général Pinochet. Et donc, pour les étudiants dont je faisais partie à ce moment-là, c'était un coup terrible. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était un coup terrible. Et donc, et puis des militants chiliens ont été assassinés en grand nombre, ce qui de nouveau réveillait, puisque c'est toujours comme ça, les souvenirs du moment de la guerre d'Algérie, les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, les souvenirs, etc. Donc tout ça se réembobinait de cette manière. Et donc énormément de gens, dont moi, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les Chiliens, les militants chiliens. Ils ont recueilli et ont essayé de les aider. On a essayé d'envoyer du matériel, des machins, des bidules, des trucs. Et ils sont allés. Plus ou moins, enfin, certains ils sont allés, enfin, d'autres ils sont. Enfin, voilà. Et donc c'est ça que ça raconte, mm-hmm. C'est cette expédition-là. Alors ils sont basés au Mexique parce que pour les besoins de mon histoire, mais évidemment c'est une espèce de base arrière de soutien aux militants chiliens qui sont. Donc en fait ils ne font pas tellement la révolution, mm-hmm. Ils se défendent contre le fascisme, ce qui est quand même une nuance, c'est pas tout à fait pareil. Quoi.
Alors justement, Marek, si on parle de lui dès les premières pages en fait du roman, il n'apparaît que très tard, vraiment en personne entre guillemets dans vos pages. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir laissé un petit peu planer le mystère autour de Marek? Parce que c'est quand même à travers lui qu'on définit Anna dans les premières pages du roman. On dit c'était celle qui a accompagné Marek Meursault, c'est celle qui a écrit sur lui, qui l'a un peu calomnié.
Oui, bah, au début, on se dit, mais qui c'est ce Marek? Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? C'est un peu comme dans un roman policier, en fait. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, évidemment, on le sait à la fin. Quoi.
Un autre personnage masculin qui est également très intéressant, c'est Boris, qui va justement s'occuper des enfants du squat de la rue Vauquelin au moment donc où Anna et Molly sont à Paris. Boris, qui est un raconteur d'histoires, qui raconte beaucoup d'histoires aux enfants et qui surtout leur apprend le poème de Rosa Auslander, dont est tiré en fait le titre du livre. Nous sommes devenus des épines dans les yeux des autres. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire qui était Rosa Auslander et pourquoi avoir choisi ce titre?
Au début, le livre s'appelait juste Anna et Molly. Et là, mon éditeur m'a dit que franchement, c'était pas terrible. Ça, d'accord. Donc, vous savez, beaucoup de livres en fait ont un titre pour l'écriture, et puis une fois qu'on arrive à la fin, il faut habiller le livre pour sortir, quoi, finalement. Et donc, il fallait en trouver un. Et comme il y avait cette scène où Boris lit les poèmes de tous ces poètes de Bukovine, dont fait partie Paul Celan, Rosa Auslander, ce sont des poètes d'un endroit en Bukovine qui s'appelle Tchernovitz, où il y avait un ghetto et il y avait une concentration de poètes judéo-allemands, Rutten, enfin, c'est, Aaron Appelfeld en parle très bien aussi, hein, parce que lui et sa famille vient de là. Et donc, j'avais lu un recueil de tous ces poètes, et en particulier ceux de Rosa Auslander, qui n'est pas la plus connue, hein, on connaît plus Paul Celan. Et Rosa Auslander, elle est un personnage magnifique, ses poèmes sont extraordinaires. Elle a une autre qualité que j'aime beaucoup, c'est que après avoir été arrêtée, avoir été dans le ghetto, après avoir été déportée, etc., etc., elle a vécu jusqu'à, 94 ans. Et moi, j'adore ça, ça me plaît toujours beaucoup que les gens traversent des tonnes de périple, épouvantable, et on les retrouve à 94 ans, c'est très réconfortant pour tout le monde, et moi en tout cas ça me réconforte beaucoup. Et droite dans ses bottes, telle qu'elle, Rosa Auslander, et les poèmes sont sublimement beaux. Et ils ont aussi cette qualité que c'est des poèmes très quotidiens. Moi j'aime la poésie très concrète, très, très incarnée, très mélangée justement aux confitures et aux odeurs de la campagne, aux oiseaux, je sais pas quoi. Enfin, ça, cette intrication-là du quotidien et des idées et de la littérature, c'est ça qui me plaît. Moi.
Alors pour revenir un petit peu sur... En fait, la manière dont vous écrivez vraiment, vous parlez beaucoup dans ce roman des plaints et des déliés de la langue. Anna qui reprend son stylo, qui rouvre son cahier, Anna qui écrit, du fait d'ouvrir des carnets comme ça. On a l'impression justement qu'il y a quelque chose de très sensuel dans l'écriture, dans la manière dont vous le décrivez, de très matériel. C'est aussi l'importance du geste qui vous attire.
Je pense que c'est le mouvement de l'écriture, il est physique, hein, de toute façon, même si on écrit à l'ordinateur, ce qui devient plus ou moins le cas à un moment donné. Je me souviens exactement du jour où j'ai appris à écrire. Et à l'époque, dans ma petite école, je ne sais pas, un quartier, c'était une école un peu Montessori, je pense, ou genre comme ça, enfin peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, bref, on avait des boîtes de sable, ça je m'en souviens comme c'était hier, et donc on écrivait, on apprenait les lettres, on les dessinait dans le sable avec les doigts. Et c'était incroyable, c'était vraiment... C'était une expérience absolument inoubliable parce qu'on sent le bras, on sent la lettre. Donc il y avait quelque chose de très physique dans la description même de la lettre, le mouvement de... Et chaque lettre d'ailleurs a un caractère en fait pratiquement. Et après quand vous apprenez à écrire, ce dont tout le monde se souvient ici, vous faites des lignes. Et quand vous faites des lignes de lettres, vous... C'est comme quand vous apprenez la peinture, hein, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec l'apprentissage, les apprentissages les plus fondamentaux. Quand vous apprenez des opérations, c'est pareil, il y a quelque chose dans la pose des opérations qui s'inscrit très, très profondément. Et alors dans le livre, il y a une importance très grande qui est donnée à l'art visuel, et en particulier aux banderoles. C'est-à-dire que forcément, comme on est en 68, 69, 70, 71, les gens passent leur temps, enfin les étudiants, passent leur temps à faire des banderoles. Activité dont je me demande aujourd'hui pourquoi on trouvait ça tellement essentiel. Et je pense que c'était quelque chose de poétique. C'est-à-dire que ce qu'on adorait faire, c'est appliquer des draps aux parents, les déchirer, les amener dans la cour de la fac, clouer ou peneser des bâtons, des balais volés également de chaque côté du drap, et après prendre des bombes à peinture ou des pinceaux, etc., selon les goûts. Un peu comme les gens qui font des tags, hein, c'est exactement le même esprit, quoi. Et inventer des belles phrases ou des slogans ou des phrases poétiques ou des trucs qui correspondaient. Et l'idée de promener des phrases dans la rue, c'est exactement pareil que faire un tag dans une gare. Ça, c'est inscrire de l'âme, de l'esprit, quelque chose dans le paysage urbain. Et je reste avec cette idée que se promener en portant une phrase ou des mots poétiques sur un drap blanc, bien écrit, avec justement, quand on a bien rempli... Alors, remplir les lettres avec de la peinture, du feutre, de la bombe, etc., etc., c'est un peu pareil que quand on... Enfin, je vais dire des conneries, donc, j'ai mis ma phrase. Quand on apprend à faire des cartes d'histoire géo, par exemple, je me souviens très bien, il y a une époque où ce qu'on adore faire, c'est des reliefs à l'intérieur des courbes de la carte pour montrer qu'il y a une baie, etc. Moi, j'ai des souvenirs absolument exaltés de ça, ces petits grisés qu'on fait pour faire ressortir le volume de la carte, ou le volume de ce qu'on veut d'ailleurs. Et c'est quelque chose comme ça, ça fait surgir la réalité.
Quelle importance accordez-vous vous-même à la critique littéraire? Vous en faites un portrait assez cruel dans l'ouvrage, mais bon, très, vous dites
atroce.
Que atroce, la cruauté est la chose la mieux partagée du monde dans ce milieu.
J'adore la critique littéraire, surtout quand elle m'adore elle-même, mais... La critique littéraire, c'est comme tout, c'est comme la critique de cinéma, la critique de théâtre, la critique d'art en général. Il y a à l'intérieur chez les critiques, il y a des gens absolument merveilleux, passionnés, qui consacrent des années de leur vie à lire les œuvres intégrales des gens dont ils parlent, et puis il y a d'autres personnes qui font autrement, qui se moquent, qui sont plutôt dans le social, la mondanité, le pouvoir, etc. Et donc cela, ça peut pas, c'est un peu des ennemis quand même, quoi. Donc forcément. Et moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup. Je sais plus, Joyce Carol Oates, je crois, qui disait qu'il y a deux sortes d'écrivains, les écrivains qui s'intéressent aux autres écrivains, et les écrivains qui s'intéressent pas du tout aux autres écrivains. Vous prenez, je sais pas, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, Antoine Volodine par exemple. Antoine, c'est quelqu'un qui, c'est vraiment l'écrivain caillou, quoi. Il s'intéresse pas du tout, enfin, je vous exagère en même temps, mais enfin, pas tant que ça en tout cas. Mais il y a d'autres écrivains comme Joyce Carol Oates ou Virginia Woolf ou moi, qui au contraire adorent lire les livres des autres. On ressent une exaltation fraternelle, en fait. Mm-hmm. C'est pour ça que je fais de l'édition d'ailleurs.
Oui. Alors, vous avez aussi donc collaboré en 2009, je l'ai dit, avec Christophe Honoré, qui a lui aussi publié des livres pour enfants.
Donc, c'est un rapport, oui.
Pour le scénario de Non, ma fille, tu n'iras pas danser, qui a été inspiré de votre roman, Week-end de chasse à la mer, pardon. Mm. Alors, quel rapport avez-vous entretenu avec cette adaptation? Par exemple, mardi dernier, Joyce Sormont, qui était invitée aux assises du roman, disait que pour elle, l'écriture de scénario était une des choses parmi les plus difficiles au monde en tant qu'écrivain. Et vous, comment avez-vous... finalement ressenti cette expérience d'adaptation?
C'était la chose la plus facile au monde. En fait, c'est des histoires particulières. D'abord, j'ai fait un seul film j'ai écrit un seul film qui était celui-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Christophe, donc, est arrivé un jour à l'école des loisirs, il y a longtemps, en disant voilà, j'ai écrit un livre pour enfants, ça s'appelle Tout contre Léo, de toute façon, vous ne le publierez pas. Je dis je sais pas, je vais le lire, quoi. Et puis, donc, je l'ai publié. Ça c'était tout un tas d'agitation parce que le sujet était scabreux. Et par la suite, c'est devenu un téléfilm pour M6 et il est devenu cinéaste comme ça. Donc, on était tout le temps très liés. Hein. Là, il fait un opéra à Lyon. Moi, j'ai fait aussi un opéra à Lyon il y a 4-5 ans. Enfin, il y a plein de... C'est un ami. Enfin, donc, en fait, c'est un militant homosexuel qui, depuis très très longtemps... voulait avoir des enfants, hein, donc il a eu une petite fille qui s'appelle Paulette, qui a maintenant 11 ans, je crois. Et au moment où Paulette est née, c'est à peu près le moment où on a commencé à parler de Non, ma fille, tu n'iras pas danser. On avait des tas de discussions sur l'éducation des enfants, et sa théorie à la gomme, c'était que les hommes étaient beaucoup mieux, élevaient quand même beaucoup mieux les enfants que les femmes, et d'ailleurs, la preuve, dans mon livre Week-end de chasse à la mer, ces pauvres femmes étaient vraiment, pas la pauvre héroïne, tellement mauvaise mère que c'en est accablant. Et c'est vrai que Christophe est un type très aussi positif que moi, j'aurais tendance naturellement, ma forme d'humour, comme vous l'avez remarqué, est plutôt négative. Donc mon autodérision faisait écho à sa positivité essentielle, quoi. Et donc, on est parti de ça. Et c'était très, très facile. Et donc, on découpe. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler à deux. Hein. Je l'ai fait plein de fois. On se répartissait le travail. Et puis, on écrivait nos scènes. Et on les trouvait super. Et puis, non, mais c'est plus agréable. C'est vrai qu'écrivain, c'est souvent assez solitaire, hein, quand même. Donc, quand vous êtes à deux, ben, c'est plus rigolo, quoi.